Voilà donc, bonjour chère auditrice, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 7 décembre et vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc nous devons tous être d'accord sur le fait que chaque fois que ce phénomène de l'abus du pouvoir grimpe dans les échelons, les conséquences sont de plus en plus considérables et dans la plupart du temps, c'est les citoyens, je dis bien les citoyens seuls qui payent la facture et subissent les effets de cette injustice. Donc nous devrons aussi se mettre d'accord sur le fait que nous venons juste de quitter un gouvernement qui nous a fait subir des injustices que nous ne sommes pas prêts à oublier demain, par exemple, une période et surtout les dernières années étaient marquées par une série de manifestations, un mécontentement populaire jamais vu. Nous n'étions pas trop loin d'une vraie révolte populaire qui réclamait le départ, bien sûr, de Jean Charest. Alors il faut comprendre aussi que la population qui a voté pour ce nouveau gouvernement espérait, pour le moins, un changement qui la rassure pour quelque temps à venir. La confiance de la société civile envers le politique en général est pas mal ébranlée. Sans vous parler de tout ce que la commission Charbonneau, par exemple, aussi nous a dévoilé, des scandales. Les hautes fonctionnaires de la ville de Montréal, à titre d'exemple simplement, avaient le portefeuille ouvert des citoyens et se sont donné la permission d'épuiser d'une manière massive. Donc nous allons aussi être d'accord sur le fait que cet argent qui est versé et gaspillé sans droit appartient en définitive aux contribuables et nous sommes tous déçus, attristés, un peu fâchés de voir notre propre argent partir comme ça dans des poches malhonnêtes. Voilà, des fonctionnaires de l'État abusent de leur pouvoir et épuisent le maximum possible de ces efforts et cet argent vous appartient tous, chers auditrices, chers auditeurs, et pendant que vous travaillez des fois comme des esclaves pour gagner cet argent-là, d'autres viennent et sans aucun effort, sinon l'abus du pouvoir et la malhonnêteté pour mettre main basse sur ce que vous aviez. Vous l'avez confié. Alors aujourd'hui, nous sommes tous déçus, bien sûr, et accablés deux fois au lieu d'une. Notre première ministre, Pauline Marois, nous l'avons choisi, nous avons misé sur ce choix en pensant bien faire. Elle était à nos yeux un semblant de volonté qui nous amènera vers ce changement que chacun de nous souhaitait. Mais finalement, et après son élection, on découvre un autre visage. Hein. Vous comprenez rapidement notre grande déception, puisque une fois elle s'est occupée de ce poste-là, de Premier ministre, Mme Marois, elle a multiplié les gaffes l'une après l'autre et chaque fois elle marque des points, non pas seulement qui la décrédite, mais surtout des points qui alourdirent notre déception, nous les citoyens qui l'ont choisi à ce poste de Premier ministre. Donc les nominations partisanes deviennent fréquentes avec Mme Marois, une fois accédée à ce poste de pouvoir, tout devient possible et la conscience de la politicienne vite s'affaiblit. Voilà pourquoi le pouvoir ne devra pas être accordé, je dis bien à n'importe qui. Nous l'avons choisi, alors on assume et on apprend dans nos erreurs. Nommer un homme tout à fait irresponsable, un ivrogne bien sûr, qui est tout à fait, je dirais plus, qui n'est pas tout à fait équilibré au poste de ministre de l'Environnement était quelque chose de l'ordre de la négligence et de l'irresponsabilité. Nommer aussi quelqu'un d'autre, un bien-aimé, bien sûr, au poste de délégué de Québec à New York, c'est une chose qu'on peut facilement digérer, mais ce poste-là est une vraie perte. Même si ce poste-là, si vous voulez, c'est une vraie perte de temps finalement, et un gaspillage au fond du chose, mais la désigner en même temps à un poste fictif, soi-disant sous-ministre des Relations internationales, en faisant, elle lui avait accordé le statut de haute fonctionnaire à vie, voilà un autre exemple de l'abus du pouvoir, mais quand ça vient de la première ministre elle-même, ça devient carrément honteux, et c'est tellement honteux au point que la personne désignée va renoncer finalement à ce poste permanent à vie afin de sauver justement la face de notre Première ministre. Donc la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que nous ne sommes pas sortis de l'auberge encore. Maintenant je ne veux pas revenir à cet article qui est publié le 26 novembre dernier, donc c'est un article intitulé Le bonheur québécois dont je vous ai parlé la semaine passée. L'auteur est un chercheur, soi-disant, qui a fait une étude qui sera publiée mars prochain dans le périodique Analyse politique. Bref, le contenu de cette étude tente de nous convaincre que le Québec est l'endroit le plus heureux sur Terre. Et n'importe qui parmi vous qui dispose d'une certaine connaissance sur le terrain peut prouver facilement tout à fait le contraire. Je rappelle simplement l'auteur de cette étude que sur cet endroit le plus heureux sur la Terre, le Québec, il y a presque 2000 personnes qui se suicident chaque année, et je dis bien chaque année. Donc en lisant aussi au journal de la presse du 4 décembre, l'histoire de ce Somalien que le Canada veut à tout prix l'expulser, et que lui d'ailleurs ne demande pas mieux, il disait quelque chose que j'ai souvent entendu, et presque 80% des immigrants disaient la même chose. Il disait: je ne veux pas rester ici. Ça fait 23 ans que je suis dans la merde. Alors combien, et je dis bien combien, j'aimerais que l'auteur de l'article Le Québec heureux lui demandera pourquoi veut-il quitter l'endroit le plus heureux de la Terre. Voilà ce que nous amène à passer à un autre sujet, bien sûr, ce drame familial de Drummondville, un drame qui a coûté la vie de 3 enfants. On parle de 2 ans, 4 ans, 5 ans. C'est une vraie tragédie, cette tragédie qui est devenue presque une habitude, courante ici, déroule justement sur l'endroit le plus heureux de la Terre. Et vous savez tous que le tribunal qui a jugé le docteur Guy Turcotte pour le meurtre de ses 2 enfants, et mieux de ne pas vous rappeler de quelle manière il a assassiné ses enfants. Donc, bref, le tribunal, comme vous le savez tous, avait jugé que le docteur Turcotte était non responsable criminellement du meurtre en question. Donc, il ne sera pas puni pour son crime. Pourquoi ? Parce que le tribunal a jugé que le docteur Turcotte n'était pas responsable de ses actes au moment de l'assassinat. 2 enfants sont morts, mais selon le tribunal, il n'y a pas de responsable. Donc le crime a eu lieu, mais c'est la faute de personne. Et les paroles du prêtre Raymond Gravel me reviennent. Il disait, je me souviens, tout d'abord, que nous avons ici au Québec le meilleur système de justice. C'est comme le prêtre en question était un adepte du palais de la justice de Montréal. Puis il nous disait que le maître, ou plutôt on parle du meurtre du 2 enfants, parlant des enfants justement du docteur Turcotte, ce meurtre est odieux et injustice, ou plus injuste, mais en quoi une condamnation à vie serait-elle meilleure qu'une réhabilitation? Donc il veut dire qu'il faut relâcher et pardonner même ceux qui ont commis les crimes les plus odieux, comme le docteur Turcotte. Et pourtant, un tueur tenu criminellement responsable devra demeurer le restant de sa vie derrière les barreaux. Et s'il est jugé non criminellement responsable pour troubles mentaux, il doit être détenu et traité pendant des années et des années, mais le relâcher après 2 ou 3 ans, c'est une erreur colossale de notre système judiciaire. Donc cette grande erreur de notre système judiciaire ouvre justement une porte de sortie à des potentiels criminels de poser un tel geste. Maintenant, si le docteur Turcotte, après avoir volontairement poignardé à mort ses 2 enfants, est jugé non criminellement responsable, comment voulez-vous juger cette mère qui vient de tuer ses enfants, ses 3 enfants, à Drummondville? Voilà, c'est exactement le même scénario Turcotte qui se répète sur Larry Turcotte à Drummondville, et notre système judiciaire québécois se trouve devant l'embarras avec ce nouveau cas parce que notre système judiciaire est déjà mal parti. Alors voilà, au micro avec vous ce matin, Adj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer la rabie de pouvoir. Mon invité ce matin est Mme Joanne Galipeau. C'est une ancienne avocate. Elle est chargée de dossiers de communication dans un organisme. Il s'appelle Action Autonome. C'est un organisme communautaire autonome. Il a été mis sur pied il y a plus de 15 années par des personnes qui ont utilisé justement, de façon volontaire ou non, les services de santé mentale. Et convaincus, donc ces gens-là, ils sont convaincus de la nécessité de se regrouper pour faire valoir justement leurs droits. Madame Galipeau est venue ce matin nous parler d'un cas particulier, comment obliger une personne à prendre des médicaments sans son consentement, et comment la Cour oblige des personnes d'être hospitalisées même s'ils ne le souhaitent pas. Alors nous allons profiter de sa présence pour la questionner sur ce drame de Drummondville. Et voilà, donc je vous rappelle toujours, chères auditrices, chers auditeurs, que si vous souhaitez participer à cette émission, vous pouvez toujours communiquer avec nous au 514-273-4302. Je répète, au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. info@commercialmage-québec.com. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous revenons avec notre invitée de ce matin, Madame Joanne Galipeau.
Sur les problèmes de société, coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un bas obscène est à la lune.
Sur Chers auditeurs, donc voilà, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Notre invitée, comme je l'avais prévu, donc c'est Madame Joanne Galipour. Donc elle est chargée de dossiers de communication et je corrige un petit peu. C'était Action Autonomie. Je dis bien c'est Action Autonomie. Donc c'est le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Donc si vous voulez rejoindre dans cet organisme là, c'est le 514-525-5060. Je répète, 514-525-5060. Alors, bonjour, Madame Galipour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici ce matin. Comme je l'avais souligné, vous avez, comme tout le monde ici au Québec, on a été un petit peu... On a été choqué par ce drame de Raymondville. Est-ce que c'était votre cas, j'imagine aussi?
Ça touche tout le monde. Le meurtre d'innocents, d'être des enfants, c'est évident. C'est toujours
terrible,
l'horreur.
C'est terrible, hein, c'est l'horreur. Voilà, c'est terrible, l'horreur.
C'est toujours l'horreur.
Mais maintenant, on parle aussi, maintenant, le problème, on parle d'une mère qui est fortement, qui a des troubles mentaux, là, qui a des troubles,
C'est ce qu'on dit. Je vous remercie de nous donner la possibilité à Action Autonomie là, d'essayer de démystifier un peu les problèmes de santé mentale et la violence. Oui. Pour la madame de Drummondville, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas, les psychiatres, les experts se prononceront effectivement sur son état de santé.
Madame Galipou, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Au départ, c'est impensable qu'une mère peut tuer ses enfants, vous comprenez? Si elle souffre pas de troubles mentaux, par exemple.
Pourquoi une mère? Pourquoi un père?
Ah, c'est la même chose. Ah, c'est le même cas. Oui. Monsieur Turcotte, docteur Turcotte aussi, soi-disant, il souffrait. Et pouvez-vous nous expliquer c'est quoi entre la violence conjugale et ce problème de troubles santé mentale?
La violence conjugale, ça peut être un problème de santé mentale aussi. Là.
Ah, c'est un problème de santé mentale.
Et il faut faire attention parce que quand on parle de trouble mental, n'importe quoi peut être un trouble mental. Je parle fort, je me fâche, peut-être que j'ai un trouble. Donc, il faut être très prudent avec lorsqu'on parle de problèmes de santé mentale, parce qu'à peu près tout peut être un problème de santé mentale, selon les sociétés, selon les cultures. Ouais. Dans une culture, ça va être tout à fait normal d'agir d'une façon, dans une autre, ça va être considéré comme anormal. Une fois c'est dit, par rapport aux problèmes de santé mentale et la violence, il y a des études qui ont été faites dans le domaine, je pense entre autres à Anne Cocker de l'Institut de l'hôpital Douglas, et qui écrit sur le site internet d'ailleurs que 90% des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne seront jamais, et j'ai bien dit jamais,
90%?
Oui. Et c'est sûr que ça frappe l'imagination lorsqu'il y a des enfants qui sont tués là, qui arrivent des drames, des crimes graves contre la personne.
Tragédie comme ça. Oui.
Mais une fois ça dit, il y a 90% des personnes qui ne seront jamais violentes. Des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ont plus de possibilités d'être victimes d'agression que eux autres même être l'auteur. En plus, il y a des chiffres qui nous disent, et c'est des chiffres officiels qu'on peut retrouver encore une fois sur le site internet du gouvernement du Canada et du Québec, 3% des crimes, et je parle des crimes graves contre la personne, ça va de voie de fait simple à meurtre, bien entendu, premier degré, sont commis par des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça veut dire qu'il y en a 97%, c'est du monde comme vous et moi, donc, c'est 97% de la population. Et ce qu'on déplore avec son autonomie et tous les groupes de défense des droits en santé mentale, c'est qu'à chaque fois qu'arrive un drame de la sorte, comme à Drummondville, automatiquement, on dit « Ah non, ces gens-là, il faudrait les enfermer. Ah non, il faudrait les obliger à suivre des traitements. » Mais on parle de 3% des crimes. On parle de 10% qui peut-être pourront être violents, qui ont un potentiel de violence. C'est punir une majorité pour une petite...
Pour une petite
minorité.
Oui. Mais maintenant, si revenons maintenant pour l'histoire de justement troubles mentaux, dans le cas de M. Turcotte, on dit que sur toute la ligne, c'est quelqu'un qui est bien, c'est ce qu'on dit, mais on dit simplement c'est au moment qu'il a posé l'acte, qu'il a assassiné, ce moment-là, quelques fractions, quelques minutes, peut-être, je ne sais pas, c'est là où il souffrait, soi-disant, qu'il souffrait de troubles mentaux. Est-ce que c'est le... Est-ce que vous, comment vous répondez à ça, madame?
Je trouve... Nous trouvons ça difficile comme la population en général, je vais vous dire comme les experts, hein, ils ne s'entendent pas.
Même les experts entre eux
s'entendent pas par rapport au cas de M. Turcotte.
Ça peut être vrai comme ça peut être faux.
Et, comme vous dites, ça peut être vrai, ça peut être faux. Il y a des expertises par-dessus expertises. Les psychiatres qui l'ont suivi à Pinel semblent avoir des réserves, beaucoup de réserves. C'est ça. Donc, c'est pas nous, Action Autonomie, qui allons se substituer, là. Ça questionne beaucoup, là.
Mais on sait qu'ils voulaient se venger, hein, donc c'est un autre sujet. Mais maintenant, revenons au drame du tourment d'huile, Mme Blanchette. Elle, est-ce que c'est, vous ne le voyez pas comme sur le même... Maintenant, si elle, je sais qu'il y aura un tribunal, il y aura tout un procès et tout, mais vous ne voyez pas que ça, on va tomber sur le même résultat que de Turcotte?
Peut-être. C'est les experts, encore une fois, qui vont le déterminer. Oui. Et puis bon, et on est critique quand même par rapport à la psychiatrie, à Action Autonomie, là. Oui. Mais c'est eux autres qui vont déterminer là, quel était son état mental. Et je vais me répéter, je veux dire, même si elle est reconnue non criminellement responsable, elle n'est pas sortie, là, elle.
C'est sûr, hein, oui, c'est officiel.
Mais ça risque d'être long, son affaire. Là.
Oui. Donc, ça veut pas dire qu'on peut, je sais pas, envoyer un message à la population comme quoi il faut faire attention, ben, il faut pas arriver à poser un tel geste et venir avec
une défense
que à ce moment-là exact, j'étais pas dans ma tête.
Mais croyez-moi, par de ça, je suis quelqu'un de très bien.
Ah ouais. revenons à votre combat, là, combat. De tous les jours. Si vous avez bien expliqué comme quoi il y a des gens, il y a des personnes qui sont obligées de prendre des médicaments.
C'est
ça, forcé, je dis bien le morceau, forcé de prendre des médicaments et même des fois être, hospitalisé, voilà, gardé, obligé aussi, hospitalisé contre leur volonté. Et vous dites, cette ordonnance-là, ça vient du tribunal.
Il y a deux affaires. Il y a l'hospitalisation contre son gré. On a plusieurs études. C'est notre cheval de bataille principal à Action Autonomie.
C'est ça qui...
Et on a effectué plusieurs études. On questionne beaucoup de la façon dont c'est utilisé.
Vous avez beaucoup de clients. Vous avez beaucoup de dossiers.
Oui, énormément. C'est notre... La première demande, là,
celle
qu'on reçoit le plus de demandes.
Voilà, c'est ça.
Là, il y a d'autres domaines aussi.
Alors,
bien entendu.
Il y a des gens qui viennent se plaindre chez vous et disent, écoutez, là, moi, je ne veux pas prendre ce médicament-là, par exemple, et là, ils m'obligent de le prendre. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites?
Là, je vous parlais plus de garde dans l'établissement.
OK, on va commencer par la garde dans l'établissement, parce que c'est plus grave.
Les deux sont graves.
Tout à fait, oui.
C'est une atteinte à liberté, c'est une atteinte à ton intégrité.
Et les conséquences du médicament.
Lequel est plus grave? Moi, je vais vous dire, c'est grave, de façon égale. Garde dans l'établissement, c'est ça. On peut obliger une personne à être hospitalisée contre son gré, on ne peut pas l'obliger à prendre des médicaments, à subir un traitement. Tout ce qu'on peut, c'est la garder... contre son gré, si on considère que son état mental constitue un danger pour elle-même
ou pour
autrui.
Oui.
Ce qu'on constate, c'est que la garde dans l'établissement est utilisée beaucoup comme outil d'intervention. Mm-hmm. C'est une façon d'aller chercher un diagnostic pour les médecins, pour les travailleurs sociaux. C'est une façon pour les familles qui appellent à l'aide, au secours, qui ne savent plus quoi faire avec la personne qui a un problème, qui n'ont pas les services. C'est une façon, ça compense beaucoup le manque de services. Donc, on a détourné un petit peu le but de la loi, là, qui était vraiment pour lorsque ton état mental constitue un danger pour toi-même ou pour autrui. Ça, c'est la garde d'un établissement. On est en train présentement de faire. On a une recherche qui a été effectuée par rapport aux ordonnances de soins.
Oui.
Ça, on oblige une personne à suivre, à subir un traitement. On comprend que la règle, c'est le respect de l'intégrité, le consentement aux soins.
Oui.
Même quand une personne qui est tutelle ou curatelle, qu'on considère inapte à administrer ses biens et sa personne, a toujours le droit de refuser un traitement.
Mais si le médecin il voit que c'est nécessité, il devra le prendre. Comment le patient il peut juger que ce médicament-là il peut nuire à sa santé?
Oh, écoutez, c'est parce qu'il y a des effets secondaires terribles.
Oui.
Il y a des effets aussi que les personnes sont complètement amorphes, qui dorment une partie de la journée, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de qualité de vie.
Et c'est
la raison fondamentale pour laquelle les gens refusent. Et surtout, ils disent, ça m'aide pas. ça ne m'aide pas. Présentement, on est en train de faire des entrevues, de rencontrer les personnes qui ont subi des ordonnances de soins,
oui,
pour leur demander comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Mm-hmm. Un tribunal arrive à dire, non, tu es obligé de prendre des médicaments. Puis ils disent, non, j'ai pas eu d'aide. C'est pas ça que j'avais besoin.
Parce que j'ai besoin, oui.
Avant d'en arriver là, parce que l'étude qu'on a faite, mon Dieu, là, je mêle des affaires. L'étude qui est sortie au mois de février, ce que ça démontre clairement, c'est que les gens vivent une grande vulnérabilité sociale.
Mmh. Oui.
On parle de pauvreté extrême, on parle de malnutrition, d'insécurité résidentielle, ils sont sur le bord de perdre leur logement.
Ça ramène des troubles mentaux causés.
Mais c'est parce que quand tu vis dans ces situations-là, j'ai envie de vous dire, c'est assez pour développer un problème.
Quelqu'un qui se trouve dans la rue, là, je suis d'accord avec vous, là, qui peut facilement...
Passer dans l'autre monde.
Oui.
Mais comment ça se fait que ces gens-là se retrouvent là, dans cette situation-là extrême? Il n'y a personne qui n'a rien vu alentour. Il n'y a personne qui n'a rien fait pour ces gens-là. Ils n'ont pas eu de service. Et les gens qu'on rencontre présentement, c'est ça qu'ils nous disent. Nous, ce qu'on avait besoin, c'est de parler. Puis, il n'y a jamais personne qui a voulu nous écouter. On nous dit, prends ta petite pilule, puis ça va bien aller ta vie. Il arrête de prendre les médicaments parce que sont pas bien avec le médicament à cause des effets secondaires. Puis, il y a des médicaments qui ont des effets secondaires importants sur la santé. On parle de problèmes rénaux. La prise de poids, mais ça, en limite, c'est un détail, la prise de poids, quand on parle, il y a des problèmes. Les ordonnances qui sont rendues, l'étude qu'on a faite, dans les années... drôle, non, je sais pas, la cause est ironique. On dit, on va lui donner tel médicament et pour contrer les effets secondaires, il y a toute la panoplie de médicaments contre les effets secondaires. Parce que c'est des médicaments très puissants, c'est pas d'aspirine, là.
Oui.
Donc, les gens sont pas à l'aise avec ça, puis surtout, ils disent, ça m'aide pas, ça m'a pas aidé, ça l'a peut-être contrôlé des symptômes, là, mais au bout de la ligne, je suis toujours dans la même situation. Là.
Mais vous avez déjà traité plusieurs dossiers, quel exemple que vous pouvez nous donner aujourd'hui qui a mené, par exemple, je dirais peut-être même à la mort d'une personne, je ne sais pas moi, à force de prendre tellement de médicaments qui ne sont pas adéquats?
Oh mon Dieu, il y a un exemple, c'est pas chez nous, c'est un exemple qui a été raconté par une personne là, qui était membre de l'Association québécoise des familles, parents et amis du malade mental, mais il me semble que c'est leur nom, quelque chose du genre, c'est son fils. C'est son fils. Bon, ça allait pas bien. Va à l'hôpital. Le fils veut pas prendre les médicaments. Retourne à la maison. Ça va pas bien. Le convainc de prendre prendre des médicaments. Retourne à l'hôpital. On lui donne des médicaments une semaine après suicider.
Ah, mais est suicidé.
Oui, parce que la petite pilule, là, c'est pas miracle.
C'était pas la meilleure chose pour
lui. En tout cas, pour lui, en tout cas, c'était pas ça la solution. Là.
Ouais.
En tout cas, ça faisait peut-être partie de la solution, mais il y avait d'autres choses, il y avait d'autres besoins. Là.
Donc, dans ce cas, qui sont les personnes justement visées par l'ordonnance de soins?
Comme je vous dis, c'est majoritairement des personnes qui vivent une grande vulnérabilité sociale.
Ouais.
On parle de jeunes hommes, je sais pas pourquoi les hommes, mais ça a l'air jeune. Avec la testostérone, mais ça, c'est mon interprétation.
Plus d'hommes que de femmes, c'est ça?
Des jeunes hommes et des femmes de 50 ans et plus.
Il
y a des femmes, des jeunes femmes aussi, bien entendu, là, comme il y a des hommes de 50 ans et plus, mais majoritairement des jeunes hommes et des femmes de 50 ans et plus.
Mmh.
Parce que c'est des personnes qui, d'après les dossiers de la Cour, on a ce qui est marqué dans le dossier, on n'a pas la personne devant nous, qui sont seules, peu entourés.
Ils sont pas encadrés, quoi.
25% des enfants, on sait pas trop s'ils ont des contacts avec leurs enfants. Dans certains dossiers, c'est clairement dit qu'ils n'ont plus de contact avec leurs enfants. Mais j'ai envie de vous dire, une personne qui a un problème de santé mentale important, c'est malheureusement, l'entourage a tendance à fuir, là. Hein?
Ouais. Et comment ça se passe, madame, une fois quelqu'un qui est visé par cette ordonnance-là?
On doit démontrer à la Cour, comme je disais, le droit fondamental, c'est le droit à son intégrité, consentement aux soins. On doit démontrer que la personne est incapable à consentir.
Et ça, c'est facile de le faire?
Malheureusement, à notre goût, à nous, un petit peu trop facile. Il y a 5 critères qui ont été élaborés par les tribunaux. 1, est-ce que la personne comprend la nature du problème? 2, est-ce qu'elle comprend les effets bénéfiques du médicament, du traitement? 3, est-ce qu'elle comprend les risques associés aux médicaments? 4, est-ce qu'elle comprend les conséquences si elle ne suit pas le traitement? Et 5, est-ce que son diagnostic l'empêche de comprendre comprendre les 4 autres points? Ça devrait être les 5 critères qui sont regardés par les tribunaux. Malheureusement, des études le démontrent, il y en a 2 qui sont considérés. Est-ce qu'elle comprend qu'elle est malade? Puis la nature de son et la nature de sa maladie, c'est-à-dire un problème de santé mentale. Et 2, est-ce que son problème de santé mentale l'empêche
de fonctionner bien,
de comprendre, d'être dans la réalité, de réfléchir, de sa capacité d'analyse critique, etc. Ouais. Et on regarde le diagnostic, c'est le critère là. C'est bon, un diagnostic de schizophrénie pour avoir un traitement obligatoire.
Ouais.
Et ce qui est grave avec ces traitements là, peut-être que la personne en a besoin pour un certain temps. Ça se peut. Je ne suis pas psychiatre. Je ne veux pas me prononcer.
Oui.
Ça se peut. Mais c'est parce que c'est des ordonnances. Dans 90% des cas, c'est des ordonnances qui sont rendues pour 2 ans et plus. Aucune révision possible.
Oh my God. Ça veut dire qu'ils devront suivre, de prendre ce médicament pendant 2 ans ou plus.
Oui, là. Oui. Puis s'ils ne se présentent pas, c'est sous forme d'injonction. D'injection. Je ne sais pas si tu as fait la même chose.
Ouais.
S'ils ne se présentent pas à l'hôpital ou à la clinique, ils vont appeler la police pour aller les chercher. Là.
Pour continuer à prendre du médicament.
Oui. Parce que un double traumatisme, ça aussi, ce n'est pas très aidant, là, la police qui vient te chercher. C'est des abus. C'est carrément abusif. Mais. C'est ça, mais c'est...
Alors, c'est ça qui fait que des gens qui se sauvent, là, ils s'enfuient dans d'autres provinces, dans d'autres villes, et puis ils deviennent itinérants quasiment, quoi.
Bon, j'aurais tendance à faire la même chose, personnellement.
Ouais.
Mais oui, effectivement. Et c'est ça, c'est... Garde en établissement, quand tu es hospitalisé contre ton gré, tu peux saisir le tribunal en tout temps pour demander d'être libéré. Tout temps.
OK.
C'est le tribunal administratif du Québec. Tu fais une demande, il va regarder si oui ou non.
C'est-à-dire le patient est tout seul, il n'a pas d'aide et tout autour de lui. Est-ce qu'il demande, est-ce que c'est l'équipe médicale qui va l'aider dans ces démarches-là? Si la personne à côté de lui, comment voulez-vous qu'un patient comme celui-là, qui désire de quitter l'institution, et il a envie de partir, comment il va faire? Quelles sont les démarches? Pensez-vous qu'il est vraiment à la hauteur de faire ces démarches-là? C'est difficile quand même.
Ce qu'on constate,
c'est
que les gens ne sont pas informés.
Ils ne sont pas
informés de leurs droits. Garde dans l'établissement, que tu es hospitalisé contre ton gré, une fois que le jugement est rendu, on te remet un petit feuillet là, avec ta liste de droits. Mais une fois que le jugement est rendu, pas avant, après, ils ont l'obligation de t'informer des motifs pourquoi tu es là. C'est la moindre des choses. Parce qu'il y a plein de monde qui se demande pourquoi ils sont là. Ils comprennent pas. Et ils ont parfois raison, parce que souvent plus de dérangeants que de dangereux qu'on va hospitaliser contre leur gré. C'est des personnes qui ont des comportements peut-être qu'on peut considérer anormal entre guillemets, ou qui sont pas conformes aux normes de notre société, mais ça n'en fait pas des dangereux pour autant. Là,
qui méritent d'être...
peuvent être tannants, par exemple, on peut comprendre. Quelqu'un qui crie sa galerie après la lune, ça peut être tannant. Bon, ça peut être dérangeant. Mais une fois se dit, c'est pas... La loi n'a pas été faite pour ces personnes-là.
Mais justement, Mme Galipeau, pour avoir justement de l'aide, est-ce que votre organisme, est-ce qu'il y a des personnes qui sont désignées pour aller visiter dans ces établissements psychiatriques, par exemple?
Oui, des conseillers, conseillères Action Autonomie.
Oui.
On a 2 écarts. deux personnes à temps plein et une à temps partiel.
À temps plein? Ah, c'est excellent.
Et une à temps partiel, oui. Bon.
Alors, eux, ils vont aller visiter ces établissements psychiatriques, par exemple, et ils vont rencontrer des personnes, ils vont avoir des discussions, ils communiquent avec ces gens-là, ils essaient de voir un petit peu le cas, l'état et tout.
Il faut que la personne fasse la demande.
Ah, c'est ça le problème. Mais
ils ne vont pas automatiquement. Là.
C'est ça. Moi, je pensais qu'ils peuvent faire des visites comme ça, ouvertes, comme ça.
Non.
Parce que, comme vous l'avez bien dit, Mme Galipeau, c'est que ce n'est pas tout le monde qui sont informés, comme quoi il y a un organisme qui peut venir à son... Et ces gens-là sont tellement vulnérables qu'ils ne pensent même pas. Une fois ils sont à l'intérieur, les portes sont fermées, ils sont partis pour des années.
Pas nécessairement des années. Quand on parle de garde en établissement, à Montréal, du moins, là, on parle d'ordonnances, de jugements qui sont rendus pour 30 jours. avec parfois des renouvellements.
Ouais.
Mais c'est généralement c'est pas pour des années. Des fois ça peut être quelques mois là. Ouais. Il y a des gens qui consentent aussi là, qui veulent être là volontaires, ouais, qui sont bien d'accord, qui disent oui j'ai besoin effectivement d'aide. Mais non c'est généralement pas très long dans ce type-là. On parle il y a des cas lourds qui peuvent être là pendant des années, mais ouais. ça c'est autre chose. Là. Ils sont même pas dans la société. C'est autre chose. C'est
ouais, autre. Ouais. Alors la personne. Je comprends très bien. Alors la personne, par exemple, ce que j'aimerais bien aussi, qu'est-ce qui se passe une fois le système est déclenché? Ça veut dire quelqu'un que, ça veut dire on arrive à, il y a une ordonnance de garde pour garder quelqu'un en établissement ou bien le forcer pour prendre des médicaments. Alors vous avez bien expliqué comme quoi il y a des démarches, mais malheureusement ces démarches ne sont pas toutes pour tout le monde. Ça veut dire manque d'informations,
de moyens. Ben, comme j'ai dit tantôt, pour ce qui est des ordonnances de soins, il y a toute fin pratique, tu es prêt avec pendant 3 ans. Il y a toujours moyen de faire une expertise puis de redemander à cours de reviser, là, mais c'est long, c'est compliqué. Et c'est pas facile. Et tout le monde le déplore d'ailleurs, qu'il n'y a pas de quand ouais, je parle de tout le monde, le barreau du Québec aussi dit que ça n'a pas de sens. Là,
qu'il madame
pas
Bélico, justement, heureusement que vous êtes là, votre organisme, il existe et j'imagine qu'il y a d'autres organismes aussi dans le même sens ou non?
Oui.
Est-ce que vous, collectivement, vous arrivez à convaincre le gouvernement de changer ses attitudes ou quoi?
On aimerait bien. Ouais. On demande.
Mais c'est ça.
On demande. Mais écoutez, il y a quand même du monde. Quand on parle du barreau du Québec, bon, avec l'autonomie, on ne veut pas se sous-estimer loin de là. Ouais. Mais et les autres groupes en santé mentale, on est quand même plusieurs. Mais quand on parle du barreau, c'est quand même puissant là, qui dénonce. Puis ouais. Dit qu'il faudrait changer ça, faudrait prévoir des mécanismes de révision, puis que ça bouge pas.
Mécanismes de révision, justement, qu'est-ce que vous proposez d'autre, vous?
De l'aide.
De l'aide financière?
Entre autres.
Équipement, personnel.
Tout le monde et à peu près tous les experts, sociologues et compagnies sont d'accord pour dire que les déterminants sociaux de la santé, on doit travailler là-dessus. Ouais. C'est-à-dire pauvreté, logement, nutrition. Donc, augmenter les revenus des personnes, c'est la première condition pour avoir du monde en santé physique et mentale.
Vous demandez ce qui est un petit peu réalisable. Vous demandez le logement pour tout le monde. Ça veut dire, vous dites, je ne sais pas si. Graduellement, peut-être oui, mais d'un seul coup, essayer de 20 000 itinérants à Montréal, par exemple, trouver 20 000 logements à ces gens-là, c'est un petit peu trop demandé au gouvernement, non?
C'est un choix de société.
Oui.
Et quand on parle de problème de santé mentale, c'est vraiment un choix de société.
Tout à fait. Oui.
C'est plus qu'une petite pilule, là. C'est plus qu'une opération pour le foie.
Et pourquoi pas?
Et on parle aussi de services adaptés, diversifiés, groupes d'entraide, pas juste le médical, l'hospitalier, qui est autre chose. C'est ce que les gens qu'on rencontre, nos membres, nous demandent aussi. Là.
Venir en aide à ces gens-là. Écoutez, Mme Galipon, on va juste prendre une petite pause musicale. On va revenir avec la suite de ce sujet de ce matin.
Ferons-nous de ces nouveaux printemps, de ces rues laissées dans le noir, alors que nul ne circule sur ces chemins d'espoir? Pour tous ces jours laissés derrière, pour tous ceux qui ne savent plus la manière, qui rêvent encore et qui espèrent. Aimons-nous. Se lève un nouveau jour pour ne plus serrer son cœur sans amour, pour porter l'aube jusque dans sa cour. Pour tous ces jours laissés derrière, pour tous ceux qui ne savent plus la manière, à tous ceux qui rêvent et qui espèrent. Aimons-nous. Des enfants qui n'ont rien, qui portent pour nous nos lendemains, de tous ceux qui sont frêles, qui appellent et qui ont tant besoin. Pour tous ces jours laissés derrière, pour ceux qui ne savent plus la manière, à tous ceux qui rêvent et qui espèrent. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous.
tendre la main. Frères et sœurs, sentir que l'on s'appartient. Pour toucher l'horizon du bout des doigts, chanter le cœur léger, porter ensemble l'humanité.
Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous rappelle toujours que vous êtes sur les ondes, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et notre invitée aujourd'hui, ce matin, c'est Madame Joanne Galipeau. Donc, elle est elle travaille pour
Action
Autonomie. On parle de défense des droits.
En santé mentale,
en
de Montréal.
Voilà, donc revenons, Madame Galipeau. Vous êtes, je sais que vous me dites, hors les ondes, me disiez que vous avez participé la semaine passée, si je ne me trompe pas, vous avez assisté au dépôt d'un rapport du commissaire à la santé et au bien-être. Donc, il vient de déposer un rapport.
Mercredi de cette semaine.
Mercredi cette semaine.
Avant hier.
Vous avez participé, madame?
Ben, nous sommes déplacés à Québec pour assister à la présentation du rapport. Il y avait eu une présentation pour les journalistes le matin et l'après-midi pour les groupes qui en avaient fait la demande.
Alors, c'est quoi le contenu de ce rapport-là?
C'est très intéressant après ma barre et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. On parle de 170 pages puis il y a un autre brique.
Il y a un autre brique
d'à peu près autant sur l'état de la situation et
c'est assez volumineux. Il y a comme des gens qui sont penchés sur le problème. Il y a du sérieux sur la table, quoi.
Oui. Et il y a des recommandations très intéressantes, entre autres, les médias en ont fait quand même état, que les psychothérapies soient assumées par l'État. Ça répondrait à un grand besoin. Okay. Parce qu'à l'heure actuelle, si tu n'as pas les moyens de payer un psychologue à 90 de l'heure,
c'est pas possible.
Et passer par le système de santé, c'est les CLSC où tu as le droit, après bien une longue attente. Enfin, ça ne répond pas nécessairement à ton besoin là.
Ah oui, ça peut prendre un rendez-vous de 6 mois, je ne sais pas.
Peut-être, le maximum que tu peux avoir avec par le biais du CLSC, c'est 6 mois de psychothérapie. Parce que tu as intérêt à guérir. À régler tes problèmes dans cette période-là. Donc, c'est une suggestion intéressante. Il y en a d'autres, là, mais celle-là, entre autres, beaucoup aussi sur la stigmatisation, combattre la stigmatisation.
Ouais.
Et là, ils m'ont fait plaisir parce que mes dadas, le milieu médical est très stigmatisant, très infantilise les personnes, prennent des décisions à leur place en disant « bof ». Ils comprennent rien de toute façon.
C'est nous qui décident, oui, c'est ça.
Et donc, il y a un bon volet là-dessus, combattre la stigmatisation dans la population, oui, mais dans le milieu médical aussi.
C'est un point qui vient juste déclencher en 2012, nous sommes un petit peu loin. Alors imaginez, pour le mettre sur les roues, là, ça...
Et c'est une recommandation du gouvernement.
C'est une recommandation, ils ne sont pas encore dans l'adaptation.
Le ministre Hébert a dit que par rapport aux psychothérapies, qui verrait évaluer les coûts-bénéfices, alors qu'il y a des études en Angleterre, c'est payé. Ils ont eu des projets pilotes, puis ont vite réalisé qu'ils économisaient beaucoup d'argent payant les psychothérapies. En Australie, c'est la même chose, parce que c'est
saillant. Pourquoi pas au Québec?
Il y a des économies à faire. C'est pas une dépense. C'est des économies au bout de la ligne. Bon, ce qu'on déplore dans le... Après ma barre, et là, je vais me répéter encore une fois, sous toute réserve là, de lire les rapports, au niveau des déterminants sociaux de la santé, il en parle un petit peu au début du rapport. Oui, ça a un impact sur la santé mentale. Oui.
C'est reconnu.
Mais il n'y a pas de recommandation à cet effet-là de demander au gouvernement de travailler, d'œuvrer sur les déterminants sociaux de la santé pour faire en sorte que...
C'est dommage, parce que c'est la lenteur là, qui tue, là, vous comprenez? Là, imaginez-vous, là, on vient de reconnaître quelque chose, mais là, pour rentrer dans le domaine de l'application et tout, on ne sait pas combien d'années ça va... Pour on arrive à ce stade-là non plus. Mais au moins, vous avez gagné, soi-disant, une demi-manche, quoi.
Un petit point.
Un petit point. Maintenant, revenons aussi pour la garde à l'établissement. Hein. Il y avait aussi un rapport qui était déposé par le ministère de la Santé.
La Santé et des services sociaux.
On parle du P38, c'est ça?
Oui, ben c'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, familièrement appelé P38, c'est plus court.
Et c'est un rapport qui est déposé quand?
Ça a été déposé en février 2011. Okay. Ça suivait plusieurs représentations. Action Autonomie, on a fait plusieurs études à Montréal. Là, on épluchait tous les dossiers qui avaient été déposés au Palais de justice à Montréal pour une année donnée. On en a fait 4 à ce niveau-là. On a dénoncé systématiquement que la loi n'était pas appliquée, n'était pas respectée, qu'il y avait des détentions illégales parce qu'il y a des délais très stricts de prévus dans la loi qui n'étaient pas respectés. Et les juges font rien. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Et la protectrice du citoyen, en février 2011, a sorti un rapport, elle aussi, d'enquête systémique dénonçant les lacunes. Le ministère a fini par sortir, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, lui aussi son rapport d'enquête qui dénonce sensiblement les mêmes choses que tous les groupes en santé mentale avaient dénoncées. Et on parle, ça fait des années là, que c'est dénoncé. Là, ils reconnaissent. Il y a des recommandations avec lesquelles, de façon générale, on est d'accord. Il y a eu un comité consultatif, ces orientations ministérielles. Ils viennent de finir leurs travaux. Quand est-ce qu'on va avoir des orientations? Quand est-ce qu'il va y avoir des gestes de poser pour... améliorer, obliger les établissements à respecter le droit des personnes.
C'est
important, on parle de droit à la liberté en matière, quand on parle de garde en établissement.
C'est terrible. Écoutez, Mme Galipo, peut-être pour les minutes qui nous restent, revenons un petit peu à ce drame de Raymondville. Moi, ça me choque énormément. Est-ce que, à votre avis, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez que pour améliorer des cas comme ça là, pour en détresse majeure là, parce que là qu'on arrive à poser de tels gestes, c'est vraiment on arrive à
Il y a des outils. On n'aime pas ça dire utiliser la garde en établissement parce qu'on est contre fondamentalement. On aimerait qu'il y ait d'autres ressources que la garde en établissement. Mais on appelle la police. La police va venir, va évaluer si la personne. Son état mental constitue un danger pour elle ou pour autrui. Il y a des outils, il y a les ordonnances de soins, il y a des outils.
Mais ça se dit, Madame de Begalipo, parce que ce que vous avez lu comme moi, que la mère qui a justement qui a tué ses enfants à Raymondville, tout le monde autour d'elle savait que Madame, elle fonctionnait pas comme il faut, elle avait des problèmes. Mmh. Vous êtes d'accord ou non? Et vous savez aussi dans son cas, elle, c'est ça ce qu'on a lu, on n'a pas d'autres informations que ça.
C'est ce qu'on a, mais on sait
qu'elle n'était pas vraiment dans son assiette là, comme on dit. Et on sait aussi que le juge même, il a ordonné qu'elle restera pas avec ses enfants, sauf s'il y a quelqu'un qui va être un adulte qui va être présent. Et c'était ça, c'était la mère, la grand-mère des enfants.
Qui devait rester là.
Malheureusement, elle a été négligente, elle a quitté pour quelqu'un. Alors, peut-être.
J'aimerais pas être à la place de la grand-mère.
Moi, c'est grand-mère, oui.
Seigneur.
Mais on sait qu'elle a quand même, elle a pas respecté cette ordonnance, elle a quitté. On sait pas combien, 10-20 minutes, je sais pas, mais elle a quitté le temps pour que, malheureusement, la tragédie tragédie survient.
Mais je pense que le père avait pris les moyens nécessaires pour protéger ses enfants.
Comme quoi?
Puis c'est important qu'on le lien mère-enfant, père-enfant, peu importe, du parent avec l'enfant. Donc, il avait pris les moyens nécessaires en se disant s'il y a quelqu'un qui est là.
Il a tout fait, vous dites.
Et qui surveille, il n'y en aura pas de danger. Et oui. Les enfants vont être protégés. Oui. Et ce qu'on déplore, et que bon, plusieurs personnes ont déploré dans les médias, c'est qu'il n'y a pas de maison, d'endroit où on peut...
rencontrer la mère avec les enfants?
Avec les enfants, de façon supervisée, d'endroits adéquats
pour ça.
Mais ça
existe? Ah, donc...
En tout cas, je ne sais plus si aujourd'hui où on en est rendu à Montréal. Là.
À Montréal, mais, oui, ça existe, oui.
Ça existe, mais bon, c'est pas évident d'y avoir accès. C'est pas évident comme lieu aussi, ce que j'ai entendu dire, que c'était pas toujours très agréable. Là. C'était pas les conditions idéales pour rencontrer un enfant. Là. Mais c'est ça, il va falloir que la société se donne des outils, parce que malheureusement, ça arrive. Des parents violents, des parents qui ont peut-être des problèmes de santé mentale, dépressifs, des parents qui ont des problèmes de toxicomanie, que tu dis, non, je vais pas laisser mon enfant.
Et qui sont à l'égard, c'est eux qui sont responsables des enfants, vous comprenez, quand vous les laissez seuls avec des enfants comme ça, de bas âge.
Surtout, j'étais très, très jeune. Plus vieux, peut-être que c'est... En tout cas, c'est à évaluer, là, mais en tout cas, je pense que le père avait pris les moyens nécessaires.
Oui. Madame Galipou, vous êtes des gens qui vous écoutent ce matin. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vivent justement la dépression, qui ont des troubles, si vous voulez, parce que vous avez dit tantôt comme quoi on peut risquer tous d'être, finalement, 90% de la population peuvent être... avoir des dépressions, on peut tous avoir une dépression.
J'ai pas dit 90%.
Non, mais je veux dire, ça dérange
beaucoup.
Non, mais je veux dire que chacun de nous, il peut être à un moment donné dépressif. Hein, à un moment donné, il peut tomber dans, du bas et du haut. Hein, tu comprends?
On parle d'une personne sur cinq qui risque de subir,
vivre
une dépression.
C'est quand même un nombre, il est élevé quand même. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces gens-là? Est-ce que vous dites, allez chercher des outils pour en sortir. Je ne sais pas si vous allez même...
Consulter, vérifier les ressources disponibles. Il n'y a pas seulement... il y a les ressources médicales, bien entendu, mais il y a des groupes communautaires, il y a des ressources alternatives qui peuvent vous aider, qui font ça autrement que seulement avec des médicaments, mais consultez. Restez pas dans votre détresse, là, seul.
Il faut sortir, là, c'est ça?
Et puis, le propre de la dépression, c'est que tu veux pas sortir. Tu veux pas voir personne, en tout cas, ça, c'est un peu... Mais c'est ça, allez consulter, allez chercher de l'aide. Téléphonez-nous, on peut vous référer, vous orienter dans des démarches.
Il peut vous appeler, c'est ça, madame?
Bien sûr.
Donc, on rappelle à ceux qui nous écoutent ce matin, donc si vous voulez appeler Action Autonomie, donc c'est le 514-525-5060. 525-5060. Il y a tout un service qui est fait pour ça, pour les gens, pour l'écoute, c'est ça? Pour vous écouter et pour répondre à ce qu'ils accompagnent, ces gens-là?
On est un groupe de défense des droits. On n'est pas un groupe d'entraide. On n'est pas des intervenants psychosociaux.
Mais quelqu'un qui est dépressif, il vous appelle, vous allez quand même prendre le temps de l'écouter.
Jusqu'à un certain point, mais on va surtout le référer.
Voilà. Ouais.
Bon,
vous allez donner des outils dans la main pour qu'ils puissent...
C'est ça. Il ne faut pas induire les gens en erreur, là, mais c'est certain qu'on écoute. On ne laisse pas la personne dire non, désolé, tu n'as pas de problème de défense des droits. Bonjour.
Vous pouvez les orienter.
C'est ça.
Voilà, très, très bien. Donc voilà, vous avez toujours. Donc pour appeler le Action Autonomie, c'est le 514-525-5060. Alors voilà, Madame Galipou, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ceux qui vous ont écouté ce matin?
Consultez, informez-vous. Il n'y a pas seulement le médical. Le médical peut être utile d'avoir quelques jours. Bon, on parle de centre de répit, nous, entre autres, parce que parfois les personnes ont juste besoin de quelques jours pour se remettre sur pied. C'est pas nécessairement l'hôpital. Il y a des ressources qui existent, malheureusement pas en nombre suffisant, mais il y a des ressources autres que le milieu a. Officiel.
Mais le message que vous passez aujourd'hui, ce n'est pas juste pour les patients, ceux qui ont des troubles ou des problèmes de santé mentale, mais aussi les gens qui l'entourent aussi. Attention,
effectivement,
aussi,
parce
que s'ils sont bien entourés, des fois, vous l'avez même bien dit, comme quoi des gens, quand quelqu'un il souffre comme ça, des fois, il n'y a pas beaucoup d'appui. Les gens, ils se détachent un petit peu.
Mais les familles ne savent plus quoi faire à un moment donné pour aider leurs proches. Là, tu vois que la personne ne va pas bien, elle n'est pas bien dans sa vie, pas bien dans sa tête, elle vit la détresse. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, à quelle porte tu vas frapper? C'est pas évident non plus pour les familles. Là.
Mais justement, c'est pas évident, mais il faut vraiment encourager ces gens-là à appuyer, à encourager ces personnes autour d'eux et essayer peut-être de tendre la main pour les aider.
Je pense que la majorité des familles le font.
Oui.
Je pense que la majorité des familles le font. Il y en a à un moment donné qui se découragent parce qu'ils voient pas les progrès, là. Oui. Mais c'est la majorité des familles le font.
Donc, vous êtes en train de dire
si ton enfant, même adulte, tu l'abandonneras pas, là, tu vas essayer de faire quelque chose pour lui. Bon, mais c'est ça que j'autre aussi s'informe. Ils ont des associations pour les représenter. Il y a des ressources dans le milieu.
Ouais.
Et c'est ça. Faut me répéter.
Surtout dans des périodes de fêtes qu'on vient et tout. Donc, le côté chaleureux, ça aide beaucoup ces gens-là aussi.
Et ça, c'était une période difficile, je pense, pour tout le monde. Ouais. Problème de santé mentale ou pas quand tu es seul. Là.
C'est encore plus difficile.
C'est difficile.
Alors voilà, nous arrivons, chers auditeurs, au terme de notre émission. Nous remercions Mme Joanne Galipeau d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur le sujet de ce matin. Merci à notre technicien de son, M. Louis-Joseph Alandi. Merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À vous, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous dis peut-être la semaine prochaine parce qu'on tombe justement dans la période des fêtes et ils ne sont pas encore certains d'être ici. Alors voilà. Sinon, l'équipe de Mage vous souhaite joyeux Noël. Au revoir.
Sur la nature humaine qui coule dans nos veines. Mais là, ça dépasse les bornes. C'est devenu agressant, c'est devenu indécent. Ils se cachent même plus des vrais sensus dans les familles profanées au nom de l'économie. Les bandits à cavale, ils se font jamais pogner le million, ben l'argent aux îles Caïmans. Les bandits à cavale. Ils se font jamais pogner les lions plein d'argent aux îles Caïmans. Je m'étais pourtant juré de ne pas m'en mêler, de fermer ma grande gueule, de faire ma petite affaire tout seul. Mais là, ça dépasse les bornes. C'est devenu inquiétant, c'est devenu révoltant. Des pauvres partout qui ont pas un sou, qu'on traîne dans le bout. Avais-tu déjà remarqué, as-tu déjà noté que multinationales riment avec évasion fiscale? Des grosses affaires comme les pétrolières, les banques d'affaires qui mettent l'esprit des millionnaires. Moi je dis ce qui est scandaleux, on se met si on ferme les yeux. Moi je dis ce qui est scandaleux, on se met si
une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Multilingue, international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en français, bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Pour vivre une expérience exceptionnelle dans une université renommée et internationale. Information hec.ca. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous?
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent